Europe 1.
Vous écoutez Europe 1, il est 8h, bon réveil à tous. Un nouveau journal avec
Europe 1 matin week-end.
6h, 9h.
Cédric Chasseur.
Thomas Schnell qui est à mes côtés. Bonjour Thomas.
Bonjour Cédric, bonjour à tous. La France est-elle prête pour encadrer les Jeux Olympiques ? Face au manque d'agents de sécurité, la situation devient inquiétante.
On ne peut pas prendre de risques sur la 13. Les autorités assument la fermeture de l'axe Paris-Normandie, ultra fréquenté en ce week-end de retour de vacances scolaires.
Les 60 milliards de dollars qui pourraient tout changer. Les États-Unis doivent voter ce soir pour une aide massive à l'Ukraine bloquée depuis des mois par les Républicains.
Le programme de la prochaine demi-heure, les balades du samedi avec Vanessa Zah. Où est-ce que nous allons aujourd'hui ?
Dans le Val-de-Loire pour le Festival International des Jardins.
Et puis nous allons manger, nous régaler, je suis sûr, avec Olivier Pouls.
Oui, et du chou-fleur et pas celui de la cantine, c'est promis.
Et avant cela, nous retrouverons notre invité Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur et de l'Outre-mer, juste après le journal et le rappel de la météo avec Anthony Kaczmarek.
Et les nuages et les averses vont se multiplier au fil des heures sur un large quart nord-est, y compris jusqu'en Île-de-France et jusqu'au nord des Alpes, mais plus à l'ouest et plus au sud, c'est le soleil qui va s'imposer. Oui, mais avec de la fraîcheur, comme sur le reste du pays, entre 9 et 22 degrés.
Un bulletin complet dans un peu moins de 10 minutes.
Europe 1.
La sécurité des Jeux de Paris, c'est le sujet de préoccupation de tout l'appareil d'État.
À moins de 100 jours de la cérémonie d'ouverture, qui à elle seule concentre la grande partie des sueurs froides des services français, la protection sera-t-elle à la hauteur du défi pour assurer la sécurité des 15 000 athlètes, des centaines de milliers de touristes ? Antoine Bienveau, les 29 jours de Jeux vont mettre nos capacités à rude épreuve, même si, pour le moment, les organisateurs se montrent confiants.
Oui, au sein du comité organisateur, on l'assure, tout sera prêt en temps et en heure. Une confiance également partagée par le gouvernement et notamment par Amélie Oudéa-Castéra. Interrogée au micro Europe 1 de Jacques Vendroux, la ministre des Sports se veut rassurante quant au dispositif prévu pour la cérémonie d'ouverture sur les bords de Seine.
On aura 45 000 forces de sécurité intérieure. Il y aura 350 gendarmes du GIGN, il y aura 100 plongeurs démineurs de l'armée, on aura également le RAID qui sera là. Je pense que ce sera à peu près sur la planète l'espace le plus sécurisé le 26 juillet au soir.
Voilà pour la cérémonie d'ouverture, mais l'enjeu ce sera évidemment de sécuriser ces Jeux Olympiques pendant 15 jours. D'après le comité organisateur, 97% du personnel a déjà été recruté, mais selon Pierre Brageux, président de la Fédération Française de la Sécurité Privée, il manque encore 8000 agents de sécurité privée pour compléter le dispositif.
Il est extrêmement important qu'on ait une dernière campagne de communication pour attirer des gens. Je pense notamment aux étudiants. C'est une population qui est extrêmement intéressante et intéressée. 3 semaines de formation prise en charge, ça leur permet de participer à la sécurité des Jeux Olympiques, d'être au cœur d'un événement qu'ils ne reverront probablement jamais dans leur vie.
Aujourd'hui, France Travail propose déjà des formations accessibles aux hommes et aux femmes. En 3 semaines, il est possible de se former à tous les métiers de la sécurité, fouilles corporelles, surveillance et même agents cynophiles pour effectuer des rondes de nuit.
Merci Antoine, bienvenue en direct sur Europe 1. Deux ados de 14 et 15 ans ont passé leur première nuit en prison, mis en examen pour assassinat dans la mort de Philippe Kopmann. Lynché sur un parking et laissé pour mort sur le bitume à Grande-Synthe, l'un d'eux reconnaît l'avoir piégé sur un site de rencontre. Dans le Bas-Rhin, l'assaillant de Souffel-Weyersheim, qui a blessé 2 petites filles, a été déféré en vue d'une mise en examen pour tentative d'homicide volontaire. Ses motivations restent floues. Hier, les élèves et les parents se sont recueillis devant le collège en souvenir de Madeleine, cette adolescente de 14 ans, victime collatérale de l'attaque. Elle a fait un arrêt cardiaque pendant le confinement des élèves.
Elle dénonce une tentative d'intimidation politique. La militante franco-palestinienne Rima Hassan est convoquée par la police.
Accusée d'apologie du terrorisme depuis la circulation d'un extrait d'interview où la 7e de liste des insoumis aux européennes avait qualifié l'action du Hamas de légitime. Concrètement, qu'est-ce qui lui est reproché, Alexis de La Fontaine ?
Eh bien, interrogée par le média Le Crayon, quelques jours après le pogrom du 7 octobre, la militante franco-palestinienne Rima Hassan a tenu à défendre le Hamas. Écoutez.
Le Hamas mène une action légitime.
Vrai.
L'État d'Israël a un droit de défense.
Faux.
Solution à deux États est possible.
Faux.
Un discours de soutien aux actions du Hamas que que Rima Hassan avait depuis regretté, estimant que ses propos avaient été tronqués. Des excuses peu convaincantes pour les enquêteurs qui soupçonnent la candidate insoumise d'apologie du terrorisme. De son côté, Rima Hassan et la France insoumise dénoncent une censure et une intimidation de la part du gouvernement. En réalité, le parti de Jean-Luc Mélenchon applique une stratégie de la victimisation mise en place par le leader insoumis depuis que ses conférences sont interdites. Lui crie à la censure de simples raisons de sécurité, répondent les universités.
Rima Hassan sera entendue par la police le 30 avril. À Toulouse, un imam arrêté hier en vue de son expulsion. Selon nos confrères de la Dépêche, le ministre de l'Intérieur aurait pris l'arrêté d'expulsion. L'imam de la mosquée d'Ampalo est de nationalité algérienne, installé en France depuis 1987. Il avait été condamné en 2022 pour des propos antisémites lors de prêches en 2017. Les tensions restent fortes au Moyen-Orient cette nuit. Une frappe a touché des camps d'anciens paramilitaires pro-Iran en Irak. Israël et les États-Unis dément être derrière ce bombardement qui a fait au moins un mort et plusieurs blessés.
Europe 1, il est 8h et presque 6 minutes. L'Ukraine attend toujours une aide militaire de 60 milliards de dollars promise par les États-Unis.
Verdict aujourd'hui avec le vote au Congrès américain. L'Ukraine ne peut plus attendre, prévient Volodymyr Zelensky. On retrouve la correspondante Europe 1 aux États-Unis, Aviva Fried. Aviva, après des mois de blocage, le président républicain de la Chambre des représentants a opéré un surprenant revirement et il propose ce soir une série de textes pour débloquer les financements.
Oui, Mike Johnson, le président de la Chambre des représentants, doit user de stratagèmes pour faire voter ses aides. Au lieu d'une seule loi qui engloberait tout, il a décidé d'en faire voter trois. L'une prévoit 61 milliards de dollars pour l'Ukraine, notamment pour acheter du matériel militaire aux Américains. Mike Johnson ne veut plus tergiverser.
Franchement, je préfère envoyer des munitions en Ukraine que des Américains. Mon fils va commencer l'académie navale cet automne. C'est l'épreuve du feu pour moi, comme pour beaucoup d'autres familles américaines. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une blague.
Une autre loi accorde plus de 26 milliards de dollars à l'aide militaire pour Israël, ainsi qu'à l'aide humanitaire pour Gaza. Enfin, la troisième loi octroie 8 milliards de dollars à Taïwan. Un bricolage, mais qui permet de s'assurer le soutien de différentes factions. Les partisans d'Israël ne sont pas forcément les mêmes qui soutiennent l'aide à l'Ukraine. Pour faire passer la pilule, Mike Johnson a même prévu une quatrième loi visant à interdire TikTok. Pourtant, des parlementaires de sa majorité, fidèles de Donald Trump, ont annoncé qu'ils allaient essayer de le faire tomber comme son prédécesseur, ce qui pourrait plonger la Chambre des représentants encore plus dans le chaos.
Et puis cette nuit, des avions de chasse ont été repérés dans le ciel de Taïwan. 21 avions militaires chinois détectés autour de l'île revendiquée par Pékin, selon le ministère taïwanais de la Défense.
Bon courage et patience si vous êtes sur les routes aujourd'hui.
Oui, puisque les vacances de Pâques se terminent pour la zone C, Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles. Elles commencent pour la zone B. C'est orange dans les deux sens en Auvergne-Rhône-Alpes. Orange le trafic également dans le sens des retours en région parisienne. Ce sera particulièrement difficile pour les retours de Normandie. La 13 est complètement fermée sur l'axe ultra fréquenté entre Paris et Vaucresson à cause d'une énorme fissure apparue dans la chaussée, Martin Lange.
Oui, la faute à une fissure lézardant toute la chaussée de l'autoroute. Une fissure importante, jusqu'à 80 cm de profondeur par endroit. Elle a été découverte lors de travaux nocturnes et serait due à un mouvement de terrain, selon la préfecture des Hauts-de-Seine. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas encore la cause de ce mouvement de terrain. Éric Berdoati, le maire de Saint-Cloud.
On ne peut pas prendre de risque, vu le nombre de véhicules qui passent. C'est des voiries à 100, 110 000 véhicules jour, quand même. À l'heure où je vous parle, on ne sait toujours pas très bien quelle est la cause réelle de ce dommage sur la voirie. Et c'est une fois qu'on a bien identifié la cause qu'on peut essayer d'y remédier. Mais tant que vous ne savez pas vraiment, vous n'engagez pas des travaux.
L'autoroute A13 est donc fermée dans les deux sens tout le week-end, tout comme le domaine national de Saint-Cloud, voisin de l'autoroute, son administrateur Brice Mathieu.
Traditionnellement, on est une voie de délestage de l'A13 quand il y a des bouchons. On ferme le domaine à la voiture, quelle qu'elle soit, jusqu'à lundi inclus. Ça nous a semblé la meilleure décision vu les mouvements attendus ce week-end.
Les autorités conseillent donc d'éviter l'ensemble du secteur, surtout pour les retours de vacances, et de privilégier l'A14 au nord et la N118 au sud. La réouverture complète de l'A13 n'est pas envisagée avant le courant de la semaine prochaine.
L'axe sera bien fermé jusqu'à au moins lundi.
Oui, au moins, parce que vu la fissure, en effet, il faudra peut-être pas plus de temps. Merci Thomas Schnell pour ce journal.